Voilà, mais écoutez, on va encore prier et remettre ce temps dans la parole au Seigneur ce matin. Oui, Seigneur, c'est un privilège de pouvoir ouvrir cette parole, la parole inspirée qui est la tienne, Seigneur, qui nous a été transmise, Seigneur, et de pouvoir la sonder ce matin. Seigneur, nous t'avons demandé déjà de préparer nos cœurs, car nous voulons te ressembler, et je te prie que pour chacun de nous ce matin, Seigneur, tu nous connais parfaitement, que tu l'appliques comme tu sais le faire. Et Seigneur, que Jésus-Christ soit honoré ce matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Comme vous le savez, nous continuons lentement, mais assurément, cette deuxième épître de Paul à Timothée. Et j'aimerais lire les versets 10 à 17 de 2 Timothée 3, un message que j'ai intitulé « Notre protection lors des derniers jours » et c'est la deuxième partie, d'accord? Je vais lire 2 Timothée 3 à partir du verset 10. Paul écrit à Timothée « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous avons vu la dernière fois qu'à partir du verset 10 dans ce chapitre, Paul dresse un contraste marqué entre les hommes méchants qu'il avait déjà décrits dans les versets 1 à 9, ces hommes méchants qui caractérisent la fin des temps. Donc il dresse ce portrait marqué entre eux et surtout les faux docteurs décrits dans les versets 6 à 9 avec lui-même. C'est le contraste qu'il est en train de faire. Et on voit dans le verset 10, il dit « pour toi », littéralement « mais toi ». On retrouve cette même structure grammaticale au verset 14, « toi », littéralement « mais toi ». Il lui dit « mais toi, Timothée ». Dans ces moments de découragement, car nous le savons qu'il était découragé par rapport à ce qu'il vivait dans son ministère à Éphèse, Paul lui dit, au lieu de te faire influencer par ces travailleurs d'iniquité, prends conscience du danger et protège-toi de tels hommes. Et nous avons vu que dans ces versets 10 à 17, il y a en fait trois murs de protection que Paul donne à Timothée, des murs derrière lesquels, on peut le dire ainsi, il doit se protéger pour être, disons, non contaminé. Et le premier mur de protection, on l'a vu la semaine dernière, c'est l'exemple de Paul lui-même. L'exemple de Paul lui-même. Paul devient ce mur de protection. Dans quel sens? Eh bien, il utilise son propre exemple en tant que formateur pour encourager Timothée. Ce que je trouve intéressant, regardez, il dit au verset 10, « Mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » C'est intéressant, je trouve qu'en toute humilité, Paul utilise son propre exemple pour motiver Timothée. Il lui dit quelque part, « Timothée, écoute, tu me connais bien, et je te connais bien. Et tu sais comment moi, j'étais fidèle lorsque les temps ont été très difficiles. Et donc, je te demande de me copier, de m'imiter et de rester fidèle dans ces temps difficile. Et il le dit au passé, tu as suivi, donc fais ce que tu as déjà fait. Continue de faire ce que tu sais être juste. Et alors, on l'a vu la dernière fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il donne 9 exemples de ce qu'il a été pour Timothée. Il dit, regarde, tu as suivi de près, premièrement, mon enseignement. Paul dit qu'il a toujours été fidèle à enseigner droitement la parole de Dieu. Ma conduite, que ma vie a été une vie non hypocrite, une vie morale qui était conforme à mon enseignement, une vie sans reproche. 3. Mes projets. Paul avait des projets dans la vie. C'était d'annoncer l'évangile aux païens comme cela lui avait été révélé par Dieu. Il dit à Timothée, tu vois, mon objectif n'a jamais changé. Soit un homme de la parole, soit un évangéliste. 4. Ma foi. On pourrait traduire ceci fidélité. Malgré toutes les difficultés qu'a subi Paul pour l'évangile, il a toujours persévéré dans la foi. 5. Ma douceur, littéralement, ma patience envers mes ennemis. 6. Mon amour, l'amour agapé. Regarde comment j'ai aimé de manière sacrificielle ceux envers qui j'exerçais mon ministère et même envers mes ennemis. 7. Ma constance, ma patience vis-à-vis des circonstances difficiles. 11. Mes persécutions. Les persécutions, c'est le mal qu'on nous fait pour l'évangile. Et ensuite, 9, mes souffrances, ce sont les souffrances physiques mais aussi émotionnelles qu'apporte la persécution. Et ensuite, il donne les villes d'Antioche, d'Icône, Lystre pour piquer la mémoire de Timothée. Timothée qui était jeune probablement lors du premier voyage missionnaire de Paul dans Actes 13 et 14, lorsqu'il a vu de ses propres yeux Paul être lapidé. Et probablement mort, ressuscité par Jésus-Christ pour continuer son voyage. Alors il lui dit, voilà qui j'ai été, Timothée. Voilà comment j'ai persévéré dans ces souffrances, même jusqu'au point d'être lapidé. Et alors sa conclusion, verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement au Jésus-Christ seront persécutés. Il dit, Timothée, bienvenue au ministère. Bienvenue au ministère. Tu vas aller dans le ministère, c'est louable. Tu vas aller plein temps pour Jésus-Christ, c'est louable. Tu es dans une église à Éphèse, les temps sont difficiles. Tu te sens persécuté, tu souffres, tu es critiqué. Bienvenue. En fait, verset 12 dit que si c'est le cas, ça veut dire que tu es probablement en train de vivre pieusement pour Jésus-Christ. Parce que celui qui vit pieusement pour Jésus-Christ, qui est vraiment engagé à Jésus-Christ, regardez, sera persécuté. Alors il faut se poser la question, si je suis pas persécuté, est-ce que je vis pieusement pour Jésus-Christ? Parce que de toute façon, une vie pieuse en Jésus-Christ va aller en contradiction avec le monde et il y aura tôt ou tard une réaction. Et on le sait parce que le verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs, donc les hommes méchants, les hommes décrits, on avait vu au verset 2, 3, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ces hommes-là, et imposteurs, qui se font passer pour des vrais, mais en fait ils sont faux, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Non seulement tu seras persécuté, mais ces hommes-là, hommes méchants et imposteurs, vont tout faire pour te scier et pour te casser, pour égarer les gens dans le même égarement dans lequel eux ils sont. Donc, en fait, une personne fidèle qui vit pieusement en Jésus-Christ déclare la guerre aux hommes méchants et imposteurs. Et il va y avoir un clash, point à la ligne. C'est intéressant, au fur et à mesure que j'avance dans la vie chrétienne, quand j'annonce l'évangile à quelqu'un, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je me vois de plus en plus pas changer, mais être beaucoup plus clair avec les gens à qui j'annonce l'évangile ici à Genève, de leur dire, écoute, avant de croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, j'aimerais t'avertir que si tu viens à Christ, ça va être vraiment difficile. Car c'est une déclaration de guerre contre Satan et il va envoyer toutes sortes de problèmes et toutes sortes de personnes pour te décourager. Tu vas être persécuté, que ce soit par tes amis, que ce soit par ta famille, que ce soit par les gens au travail. Si tu vis pieusement Jésus-Christ, si Christ est ton Sauveur et Seigneur, et tu veux être sérieux avec lui, attention. Ne pense pas que devenir à Christ va être la belle vie. Alors, il va te bénir, il va te donner une paix et une joie garantie. Mais ça ne veut pas dire que la vie va être facile. Au contraire, j'ai l'impression, de part ce que je viens de lire, que ça va vraiment être difficile. Et si nous vivons une période aujourd'hui de paix et de bonheur, et c'est vrai, d'abondance dans notre ville, nous savons dans le verset 1, il a dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous sommes dans les derniers temps, depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Il a dit que dans cette période, qui maintenant a plus de 2000 ans, il y aura des temps difficiles. Tous les temps ne sont pas difficiles. Et moi, j'ai l'impression que nous vivons aujourd'hui une période de temps pas très difficile, ici à Genève. Mais ça pourrait changer. Donc, nous devons vraiment persévérer, mes amis, et nous attendre que les choses vont aller de pire en pire. Ça, je trouve intéressant, vous ne trouvez pas aussi? De pire en pire. C'est ce qu'il dit. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours, toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Alors ça, c'était l'introduction. C'était la révision de la dernière fois, d'accord? Si vous étiez ici, ça, c'est rien de neuf. Donc ça, c'était le premier mur de protection, l'exemple de Paul lui-même. Passons au deuxième mur de protection, d'accord? Deuxième mur de protection. Le troisième mur de protection, on verra après Pâques, d'accord? Aujourd'hui, c'est que le deuxième mur de protection. L'exemple de sa propre famille. L'exemple de sa propre famille. Regardez le verset 14 et 15. On va regarder que ces deux versets maintenant, d'accord? Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Paul lui dit, « Écoute, Timothée, tu es dans un moment de découragement, tu en as un peu marre. Non seulement pense à moi, mais deuxièmement pense à ta propre famille. » Alors écoutez, vous allez, je pense, vraiment encourager. Surtout, si vous êtes aujourd'hui un parent qui essayez du mieux que vous pouvez élever vos enfants dans les voies du Seigneur, mais des parents... Et vous voyez en vous de nombreuses faiblesses dans votre propre vie, peut-être des failles présentes. Et vous demandez si l'effet de votre vie sur votre enfant est vraiment conséquent. Vous vous demandez si votre enfant ou vos enfants captent vraiment votre enseignement. Vous vous demandez si vos enfants connaissent vraiment le Seigneur. Et finalement, vous dites, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? On a l'impression... Parfois qu'avec l'influence du monde, l'influence de l'école, l'influence de la télévision, l'influence d'Internet, l'influence des jeux vidéo, l'influence des copains et des copines, que cette influence est tellement énorme que cela rend presque infructueux le petit peu que moi j'essaye d'inculquer à mes enfants avec en plus l'Église. Le peu que l'Église pourrait apporter, c'est quelques minutes le dimanche matin. Moi, je me rappelle, lorsque nous avons trois enfants, lorsqu'ils étaient petits, ils allaient à l'église, l'école communale de notre petit village ici en France voisine. Et pendant des années, on se disait souvent avec mon épouse, quand les enfants revenaient de l'école, que la première heure du retour, c'était le déprogrammage. Avant de pouvoir essayer de reprogrammer le soir, avant qu'ils repartent le lendemain, et il fallait ensuite redéprogrammer, et on avait l'impression que c'était sans arrêt, programme, déprogramme, et des fois on se disait, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Les influences du monde sont tellement énormes sur les enfants d'aujourd'hui. Et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Alors maintenant, ça c'est pour un couple chrétien. Mais imaginez que vous êtes ici ce matin et que vous êtes marié et votre conjoint ne connaît pas le Seigneur. Vous êtes le seul chrétien dans votre famille. Vous êtes ce qu'on appelle monoparental peut-être. Peut-être que vous êtes tout simplement seul. Vous n'avez même pas de mari ou même pas d'épouse. Vous êtes seul avec vos enfants à la maison. Ou vous êtes à la maison avec un mari ou une femme qui n'est pas chrétien. Et là, vous dites, mais de toute façon, alors là, la cause est perdue, quoi. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. On a l'impression qu'on sacrifie nos enfants sur l'autel de la sécularisation. Quel effet peux-je vraiment avoir dans la vie de mon enfant? Écoutez, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle. Elle se trouve dans ce texte. Car ce texte va vous montrer que quelles que soient vos circonstances, la grâce de Dieu peut s'infuser de manière époustouflante dans votre effort et même avoir un effet étonnant sur la vie de vos enfants. Regardez le verset 14. Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. » Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, décortiquons, d'accord? C'est vraiment intéressant. Et j'espère que ça va devenir très très pratique pour vous aider à la fin, d'accord? Mets-toi, verset 14, contraste avec verset 10. Oui, verset 13, ces hommes méchants imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mets-toi, non. Toi, t'es différent. Ça, c'est le contraste. Un contraste clair dans l'original. Pas toi. Toi, demeure. Reste immobile. Alors, il n'est pas en train de dire de ne plus avancer, mais de ne pas avancer dans le mal avec les méchants et les imposteurs, mais de rester planté, immobile, dans le sens de continuer dans les choses qu'il avait apprises en tant qu'enfant. Enfant. Paul analyse et lui dit, ce que tu as appris en tant qu'enfant, c'était top. Donc, persévère dans ce que tu as appris. Accroche-toi à ce qui est bon de ton passé. Voilà ce qu'il est en train de lui dire. Dans 1.13, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. Donc Paul l'applique ici à lui-même. L'idée c'est, prends ce qui est bon et retiens-le. Alors, en quoi devait-il demeurer dans notre verset 14? Dans les choses que tu as apprises. Donc, il avait appris certaines choses. Qu'est-ce qu'il avait appris? Le verset 15 nous le dit. Reconnu certains, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Alors, c'est quoi les saintes lettres? Eh bien, c'était une phrase utilisée par les juifs de langue grecque pour décrire l'Ancien Testament. Et nous le savons qu'il est en train de parler de l'écriture, de la parole de Dieu, à cause du verset 16. Il dira ensuite, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc. Donc il est en train de dire que Timothée avait été enseigné en tant que jeune homme les saintes lettres, l'écriture inspirée de Dieu. Alors c'est intéressant, non seulement est-ce qu'il les connaissait, regardez la nuance du verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises », donc on sait qu'il parle des saintes lettres, la parole de Dieu, et reconnu certaines. Alors c'est intéressant, n'est-ce pas? Il dit que non seulement il avait appris les Écritures, la Bible, mais qu'à un moment donné, il avait reconnu les saintes lettres, une référence certainement à l'Ancien Testament, comme étant certaines. À un moment donné, il y a eu un déclic dans sa vie. Il lisait, c'était intéressant, peut-être pas, mais à un moment donné, il y a eu un déclic et il a dit « Ah, ah oui, là maintenant je suis convaincu, ça, c'est avec certitude la parole inspirée de Dieu. » Il y a eu ce déclic. Il les a reconnues certaines. C'est une chose d'apprendre les Écritures. C'est une autre chose, à un moment donné, de se dire « Waouh ! » Ça, je sais que c'est vrai. C'est vraiment la manne de Dieu. Et comment est-ce que ce déclic se passe ? Eh bien, par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Waouh ! Ça, c'est génial. Qui veut dire, mes amis, qu'en tant que parents, nous pouvons enseigner la parole de Dieu, mais même en tant que pasteur, je peux vous prêcher jusqu'à ce que je suis rouge dans la figure la parole de Dieu, mais moi, je ne peux pas vous convaincre que la parole est vraiment de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça dans votre cœur. À un moment donné, il y a un déclic. Et le Saint-Esprit, c'est comme il enlève le voile et clac, waouh, je vois. Et je comprends que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux pour moi, parce que ça enlève la responsabilité qui est la mienne d'essayer de vous convaincre. Moi, mon boulot, c'est simple. C'est le meilleur boulot au monde, au fait, d'accord ? C'est de parcourir les Écritures et les expliquer. Le Saint-Esprit prend les Écritures et les applique. Et il vous ouvre les yeux pour que vous compreniez. Et ça arrive de manière différente. Il y a des moments différents pour tout le monde. Moi, je me rappelle, c'est arrivé le 4 novembre 1976. Vous connaissez mon histoire, j'étais en Inde. La personne m'a parlé de Jésus-Christ. J'ai cru dans mon cœur ce jour que Christ était Sauveur et Seigneur. Je l'ai invité à devenir mon Sauveur. On m'avait donné un petit bout de Nouveau Testament. Oh, ma mère m'avait lu la Bible quand j'étais enfant de temps en temps. Ça ne m'intéressait pas trop. J'écoutais, j'étais obligé. Et là, une fois que Christ était rentré dans mon cœur, une demi-heure plus tard, j'ai retrouvé ce petit Nouveau Testament. Et mes amis, j'ai commencé à lire ce Nouveau Testament. Mais c'était comme un milkshake. Vous savez, j'aime beaucoup les milkshakes, d'accord. Mais c'était comme si je découvrais pour la première fois de ma vie la parole de Dieu. J'aurais pu vous dire à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait, c'est la parole de Dieu. Je la connaissais même pas, mais je savais que c'était la parole de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur qui me l'a révélé. C'est aussi simple que ça. Et ça fait 30 ans que j'arrête pas de lire et d'étudier ce livre, j'en ai jamais assez. Il faut expliquer comment ça se passe, ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Alors, retournons à notre texte. Là, ça devient vraiment intéressant. Toi, demeure dans les choses que tu as prises, verset 14, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Alors, comment ça s'est passé ? Reculons dans l'enfance de Timothée si on veut comprendre ce qui s'est passé, d'accord ? Paul affirme que Timothée avait appris l'Ancien Testament dès son enfance, depuis sa plus petite enfance, littéralement. Alors retournons à 2 Timothée, chapitre 1 et les versets 1 à 5, et vous allez voir, d'accord, comment ça se passe ici. Donc Paul commence la deuxième épître à Timothée, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Regardez, gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, donc grand-mère Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors là, nous avons maintenant la description un petit peu plus détaillée de l'enfance de Timothée. Premièrement, Paul connaissait la grand-mère et la mère de Timothée. C'est ce qu'il dit. Deuxièmement, Paul affirme à Timothée que la foi qui habitait en lui dans sa jeunesse était bel et bien une foi sincère, sans hypocrisie, une foi limpide, droite, juste, fondée. Quel hommage rendu à ce jeune qui aujourd'hui doute. Trois, Paul affirme que cette foi sincère qui était en Timothée avait d'abord été dans sa grand-mère, puis dans sa mère. C'est ce qu'il dit. Alors, parlons premièrement de sa grand-mère. Paul rappelle à Timothée qu'il descendait d'une lignée de parenté, dis-moi de maman et de grand-maman, zélée pour le Seigneur. La grand-mère, ou l'aïeule de Timothée s'appelait Loïs. Alors, on ne sait pas grand-chose sur elle, sauf que son nom veut dire agréable ou bon. Ou agréé. Apparemment, c'était une femme de Dieu, ce que nous avons à apprendre. Une foi sincère, sans hypocrisie, une femme apparemment pas compliquée, pas difficile, mais douce, gentille et agréable. Et ensuite, que savons-nous de sa mère, Eunice ? Le mot veut dire heureuse ou victorieuse. Donc elle, il est dit, elle avait aussi une foi sincère, authentique, vraie. Elle était heureuse et victorieuse apparemment par sa foi. C'est beau, non ? Alors, essayons de mettre tout ça ensemble pour comprendre comment ça s'est passé avec Timothée. Dans Actes 16, et le verset 1, nous lisons ceci. Il se rendit, parlons de Paul, ensuite à Derbe, deuxième voyage missionnaire, et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc, Timothée était de la ville de Lystre, on l'avait vu. Sa maman, Eunice, était juive, nous dit ce verset, et fidèle. Qui confirme ce que nous venons de voir. Elle aimait le Seigneur d'une foi sincère. Mais regardez le verset 1, il nous apprend qu'elle était mariée avec qui ? Elle était mariée avec un père grec, mariée avec un mari grec. Son mari était grec. Et on a l'impression, en tant que grec, donc il était ce qu'on appellerait non-juif, donc il était ce qu'on appelle païen ou un gentil, et on a quand même l'impression qu'il n'était pas croyant, qu'il n'était non plus prosélyte. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui se convertissait au judaïsme. Pourquoi pas ? S'il s'était converti, il aurait circoncis son fils Timothée. Verset 2, les frères de Lystre et d'Icône rendaient-lui un bon témoignage, parlant de Timothée. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc son père, apparemment, n'a pas voulu que son fils soit circoncis, ce que tous les Juifs faisaient. Donc il n'était pas juif. Et on a l'impression qu'il n'était pas du tout croyant, parce qu'il n'est pas honoré avec une foi sincère comme l'est sa grand-mère et sa mère. S'il avait eu une foi sincère, il aurait été honoré aussi. Mais il n'est pas honoré dans ce que Paul écrit. Donc, et voici ce qui est intéressant, Timothée était issu d'un mariage mixte. Il avait une mère fidèle qui aimait le Seigneur et les Écritures, mais pas le père. Et ça, je trouve hyper encourageant. Pour ceux qui se trouvent peut-être dans la même situation. Alors, à quel moment ces deux femmes se seraient-elles converties à Jésus-Christ ? Alors, on ne sait pas exactement. Mais comme on l'a vu la dernière fois, on a l'impression que quand Paul est passé à Lystre, dans le chapitre 14 de Actes, lorsque là, vous vous rappelez, premièrement, il a fait un miracle, et donc on l'a pris pour un dieu grec, puis ensuite les Juifs sont venus et ils ont tourné la foule contre lui, ensuite on l'a lapidé. Probablement que Timothée, ainsi que sa mère et sa grand-mère, étaient là, parce que les villes étaient petites, et elles ont vu ce qui s'est passé ce jour-là. Et on a l'impression, bien que c'est une subjection, je ne sais pas, que tout le monde, les trois, se sont probablement convertis à ce moment-là. Donc, convertis, c'est-à-dire qu'elles avaient la foi de l'Ancien Testament, je pense qu'elles connaissaient le Seigneur, mais elles ont accepté le Messie comme sauveur à ce moment-là, c'est l'impression que l'on a. Donc, Loïs et Eunice étaient deux femmes juives, pieuses, qui avaient élevé Timothée dans sa jeunesse, dans la vraie foi, dans le Dieu d'Israël, qui lui avaient enseigné les Écritures, l'Ancien Testament, les saintes lettres. Mais c'est probablement Paul qui, ce jour-là, a permis que ces dames et Timothée connaissent le Messie. Alors, je sais pas, vous me suivez là, ça va ? D'accord. Moi, je me suis posé la question, mais alors comment est-ce que la maman de Timothée l'a élevé ? Parce que c'est ce qu'il dit, il est élevé dans les Écritures. Comment ? Ben, moi, je crois qu'il y a plusieurs indices. Dans Deutéronome 6, par exemple, c'était vraiment la base de l'Ancien Testament. Deutéronome 6, 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc voyez-vous, le juif de l'Ancien Testament aimait les Écritures. Il aimait l'Ancien Testament et il faisait tout pour inculquer ses Écritures, ses commandements à leurs enfants dans toutes les étapes de la vie. Dans Proverbe 1 et le verset 7, il est dit ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Donc voyez-vous, une maman fidèle, juive, avait le cœur d'inculquer à ses enfants la parole de Dieu. Mais le défi était le fait qu'elle était mariée avec un grec, avec un non-juif. Alors, moi je pense que si vous êtes ici ce matin, vous êtes maman, ou peut-être grand-maman, vous devriez être vraiment encouragé. Vous vous rappelez peut-être de Timothée 2, 3. Hein? Tite 2, 3 dit ceci. « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Moi, je pense qu'ici, on voit Loïs inculquer à Eunice des vérités qu'elle inculque à Timothée. Imaginez de faire ça lorsque vous devez passer votre vie avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui n'est pas intéressé. Est-ce votre cas ? Ou est-ce que vous connaissez des femmes dans cette situation ? Peut-être vous dites, mais John, quelle est la probabilité que j'y arrive ? Que j'arrive à élever une postérité qui aime le Seigneur lorsque mon mari ne connaît pas le Seigneur ou si je suis seul ? Si je suis parent monoparental ? Eh bien, moi, je répondrai par la grâce de Dieu. Et de la même manière qu'Eunice a pu le faire. Elle a eu un impact incroyable dans la vie de son fils. Dans 1 Corinthiens 7, bon là je fais qu'effleurer ces quelques points, mais c'est vraiment à titre d'encouragement. Au verset 12, le cas d'un chrétien qui est marié avec un non-chrétien est donné ici. Il dit au verset 12 de 1 Corinthiens 7, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère... » Donc ça veut dire que Jésus ne l'a pas dit lui-même, mais il est inspiré de Dieu. « Si un frère ou une femme non-croyante a une femme non-croyante... » Donc si un frère chrétien a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. « Si une femme, donc croyante, a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. » Donc si vous êtes croyant et vous avez un conjoint qui n'est pas croyant et qui veut... continue le mariage avec vous, ben restez dans le mariage. Pourquoi ? Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Alors ce qu'il est en train de dire, c'est pas qu'un enfant va automatiquement être sauvé par le fait qu'il y a un conjoint chrétien dans la famille, mais que la bénédiction de Dieu sur le croyant fait qu'il y aura une influence particulière bénéfique sur ceux dans ce foyer qui ne connaissent pas le Seigneur, dont les enfants. Donc si vous êtes seul, votre découragement est compréhensible, mais votre influence peut être énorme sur vos enfants, mais aussi sur votre mari. Est-ce que je peux avoir une influence sur mon mari? Alors oui. Mais alors là, c'est radical. Je vais vous expliquer, enfin je vais vous lire, si vous êtes une femme avec un mari non chrétien, ce qu'il faut faire. C'est tout l'opposé de peut-être ce que vous pensez que vous devriez faire. D'accord? Parce qu'on pourrait dire, ouais, t'as voir, mon mari n'est pas chrétien, alors moi je vais mettre par exemple des petits post-it avec des versets bibliques sur le miroir, comme ça le matin quand il sera, ah, il verra un verset, waouh, super, je vais me convertir aujourd'hui, d'accord, c'est une possibilité. Ou bien je vais comme par hasard laisser ma Bible ouverte sur un verset souligné en jaune sur la table, par hasard à la cuisine, donc quand il vient chercher son café, il verra le verset, waouh, je vais me convertir aujourd'hui. Ou bien un livre super, comment un mari non chrétien devrait se convertir, et celui-là on va le mettre par exemple sur son oreiller par accident, comme ça il le voit avant qu'il se couche. Bien sûr, on est zélé pour le Seigneur, donc on aimerait voir notre conjoint venir au Seigneur, donc on veut lui parler. 1 Pierre 3:1 nous dit ce qu'il faut faire. Tenez-vous bien. Verset 1. Femmes, soyez de même soumises à votre mari. Je sais que c'est pas très populaire comme conception, d'accord? Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Voilà. Un mari qui n'obéit pas à la parole, il n'est pas intéressé, il n'est pas chrétien. Femmes chrétiennes, soyez soumises à votre mari, afin que quelqu'un, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Sans parole, n'essayez pas de l'évangéliser. Ne mettez pas des post-it à droite et à gauche, ni des livres, ni des bibles ouvertes à droite et à gauche, non. Ayez une manière de vivre chaste et respectueuse. Soyez soumise à votre mari. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Alors, on a déjà vu ça. C'est pas en train de dire qu'il faut pas être joli. Vous pouvez être joli pour votre mari. D'accord? Mais, la parure intérieure, il est en train de faire un contraste. L'important, c'est l'intérieur. Et caché dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Soyez doux et paisible avec lui. Et vous allez, par votre amour, conquérir votre mari au Seigneur. Si le Seigneur ouvre son cœur, ça c'est dans les mains du Seigneur. Mais l'approche est complètement différente de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, imaginez. Vous aimez votre mari de cette manière, et vous inculquez comme vous le pouvez la parole de Dieu à vos enfants. Et si vous êtes une grand-mère, encouragez votre fille. Et quand vous avez les petits-enfants, ben, si vous avez le droit, la permission, faites tout pour essayer de parler à ces jeunes du Seigneur. Alors, quel est le résultat? Retournons à Acte 16. Intéressant. Dans le cas de Timothée, comment est-ce que Dieu a honoré cela? Dieu a préparé le cœur de Timothée par sa grand-mère et sa mère. Paul est venu à Lystre, s'est probablement converti là. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui, de Timothée, un bon témoignage. C'était un homme top. Moi, je pense, surtout à cause de l'influence de sa maman et de sa grand-maman. Paul n'est venu que cueillir une fleur qui était déjà prête à être cueillie. Préparée bien sûr par le Seigneur et par sa mère et sa grand-mère. Intéressant que Timothée est devenu missionnaire, pasteur, prédicateur. Il a établi des églises en Asie mineure. Deux épîtres dans la Bible lui ont été consacrées. On en étudie une aujourd'hui. Ça, c'est un impact. Donc, si vous êtes seul, ou je, aussi peut-être vous êtes papa hein, seul, c'est les mêmes choses pour un papa qui est seul. Si vous êtes femme avec un mari non chrétien ou un mari chrétien avec une femme non chrétienne, votre effort, Dieu veut l'utiliser. J'aimerais juste terminer avec quelques minutes juste avant l'heure pour être vraiment pratique. Vous dites, jeune, mais alors je fais quoi? Qu'est-ce que j'inculque à mes enfants? Qu'est-ce que je leur apprends? Comment faire? Alors on va aller très vite, d'accord? À l'époque, dans l'Ancien Testament, le livre clé pour inculquer à nos enfants la vérité, c'était le livre des Proverbes. Allons-y, d'accord? Si vous voulez noter ces choses, je vais que les mentionner, d'accord? Il y a 10 choses qui font partie de l'éducation d'un enfant, d'accord? 10 thèmes qui ressortent du livre des Proverbes, des choses, des thèmes qui pourraient être des thèmes sur lesquels vous pouvez commencer avec vos enfants dans l'apprentissage de ceci dans la parole de Dieu, d'accord? Alors voici, on va aller très vite. Numéro 1, apprends à ton enfant à craindre Dieu, à craindre Dieu. Proverbe 1:7, la crainte de l'Éternel est le commencement des sciences, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous voulez un enfant sage, il faut qu'il commence en comprenant qui est Dieu, et de le craindre, de l'aimer, mais aussi de le craindre, de réaliser que Dieu est saint, que Dieu est tout-puissant, et que nous devons rendre des comptes à ce Dieu. Et vous devez lui apprendre que ce Dieu a amené un fils Jésus-Christ, il a donné Jésus-Christ sur terre pour répondre à ce besoin de l'homme qui est dans ses péchés. Christ est venu pardonner le péché des hommes. Et donc la colère de Dieu à l'égard de l'homme s'est déplacée sur Christ. Lui a subi la colère pour nous. L'homme a été libéré, celui qui croit en Jésus-Christ par la foi, d'être sauvé. Ça, c'est apprendre à son enfant la crainte de Dieu. 2. Apprends à ton enfant à garder son cœur. Garder son cœur. Proverbe 3:3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Voyez-vous, le cœur, c'est le centre de notre vie. Intéressant, dans chapitre 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un enfant doit apprendre à écouter son cœur. Et lorsque le péché est là, de savoir comment décharger sur le Seigneur son péché. Il doit apprendre que sa conscience est là pour éveiller en lui le mal. Et lorsque la conscience clignote, il doit suivre sa conscience, arrêter ce qu'il fait et fuir vers le Seigneur. 3. Apprends à ton enfant à obéir à ses parents. Ça, on l'a déjà vu, hein. On a vu dans 2 Timothée 3:1 qu'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Or, la Bible dit le contraire. Proverbe 1:8, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. 3:11, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Les parents doivent avoir le dernier mot. Les enfants doivent apprendre à obéir maman et papa avec un sourire. 4. Apprends à ton enfant à bien choisir ses amis. Écoutez, ça c'est hyper important, oui. Hyper important. Proverbe 1:10, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner par eux. Nous devons apprendre à nos enfants à choisir leurs amis et à dire non aux amis qui veulent les mener sur le chemin du mal. S'ils te disent, viens, faisons du mal, ne le fais pas. C'est à nous de les aider. 5. Apprends à ton enfant à contrôler son corps. À contrôler son corps. Et là, c'est particulièrement par rapport aux prostituées, à ses pulsions sexuelles. Et ça, c'est un problème aujourd'hui dans notre monde. Contrôler nos pulsions sexuelles. Chapitre 6, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigent dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sur le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. » Quelqu'un mettra le feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On doit apprendre à nos enfants de faire très attention par rapport à la sexualité. Mais en contrepartie, et merci pour l'équilibre biblique, 6, apprends à ton enfant à jouir de son conjoint. Apprends-lui que le mariage, voilà ce que Dieu a conçu pour la sexualité. Et regardez comme il le décrit dans Proverbe 5, 15. « Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits, tes sources, doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur la place publique? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » La Bible me dit, le mariage, c'est top, c'est super. Et inculquez cela à vos enfants. Dites-leur, ça vaut la peine de te réserver pour ton conjoint dans le mariage. Ça fera pour un super mariage qui durera pour le reste de ta vie. Mes amis, ça va contre-courant. Ça, je le sais. 7. Apprends à ton enfant à veiller sur ses paroles. 4, 24. Écarte de ta bouche fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Attention à ce que tu dis. Garde tes paroles. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, 10, 13. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, 10, et le verset 19. 12, 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Dis la vérité, garde ta bouche. 8, apprends à ton enfant à exercer son travail et l'exercer bien et avec manière assidue. Là, il donne l'image d'une fourmi. Va vers la fourmi. Chapitre 6, verset 6. Paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Apprends à ton enfant à travailler et à gagner sa vie honnêtement par un travail dur et honnête. 9. Apprends à ton enfant à bien gérer son argent. Chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Travaille, économise. Tu as le droit de jouir de tes biens, mais sois généreux avec le Seigneur. Et Dieu te bénira en retour. Et 10. Apprends à ton enfant à aimer ses voisins. C'est marrant ça, vous ne trouvez pas? Proverbe 3, 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Aime ton voisin, aide ton voisin, fais-lui du bien. Et il te redonnera 100 fois. Voilà, j'ai terminé mon message. Il y a beaucoup, vous ne trouvez pas là? Là, c'était dense. Mais écoutez, c'est tellement génial. Vous ne trouvez pas la Bible? C'est tellement pratique. C'est tellement concret. Écoutez, je ne suis pas parent monontal et je ne suis pas un parent qui a un conjoint non chrétien. Je me considère vraiment, vraiment béni. Je pense que c'est dur d'être parent monoparental. Je pense que c'est très difficile d'être seul ou d'avoir un conjoint non chrétien. J'espère de tout cœur qu'aujourd'hui vous avez été encouragé. Tenez bon. Tenez bon. Et nous, comme Église, on devrait vraiment prier pour vous et tout faire pour vous aider. Et que le Seigneur vous utilise dans votre faiblesse et que vos enfants deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Amen. Oh Seigneur, on a beaucoup vu aujourd'hui, beaucoup d'informations. Mais Seigneur, je te remercie pour Timothée, pour Paul, mais aujourd'hui surtout pour Eunice et Loïs, ces femmes incroyables. Comme on aimerait les connaître, mais je pense que quelque part elles étaient simples, fidèles, des femmes d'exemple, des femmes de la parole. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à puiser de cet exemple et à ne pas perdre courage. Seigneur, fais ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.